Europe 1. La France, c'est le pays de la haute couture. Ça, vous le saviez déjà. Mais est-ce que vous saviez que la haute couture a été inventée par la marchande de mode de Marie-Antoinette, un génie des affaires nommé Rose Bertin ? Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Rose Bertin, la créatrice de la haute couture. Épisode 1, une graine d'entrepreneuse. Nous sommes au château de Marly à la fin du mois de juin 1774. Marie-Antoinette a 19 ans. Elle est la reine de France depuis un peu plus d'un mois. Son époux, le roi Louis XVI, l'a chargée de s'occuper des plaisirs de la cour. À elle d'organiser les bals, pas moins de deux par semaine, les représentations de pièces de théâtre, les concerts et fêtes en tout genre. Tout ça, c'est autant d'occasions pour se faire confectionner de nouvelles robes. Et la jeune souveraine de France n'a qu'une envie, être la plus belle de son royaume. Ce jour-là, elle profite de l'intimité du château de Marly pour recevoir la duchesse de Chartres. Cette jolie et jeune aristocrate n'est pas venue seule dans les appartements de la reine. Elle est accompagnée d'une marchande de mode, Mademoiselle Bertin. Cette jeune patronne d'une maison de couture a l'air joviale et sûre d'elle, avec ses rondeurs rassurantes et son regard clair, luisant d'intelligence. La duchesse de Chartres l'adore. C'est elle qui s'est occupée de sa robe de mariée. Une pure merveille en tissu broché de fils d'argent mat et brillant. La duchesse est certaine que Marie-Antoinette va aimer ses créations. Et effectivement, la reine se montre très curieuse. Elle ne supporte plus les habits de cour peu pratiques qu'on lui impose. Et sa mère, l'archiduchesse d'Autriche, lui reproche toujours d'être mal habillée. Eh bien, grâce à Mademoiselle Bertin, tout ça va changer. Les deux femmes se plaisent immédiatement. Une collaboration de plus de 15 ans va commencer, une relation qui va impacter le budget de la France. La mère de la haute couture française naît à Abbeville, en Picardie, le 2 juillet 1747. Elle ne s'appelle pas encore Rose. En réalité, elle s'appelle Marie-Jeanne. Mais comme l'explique l'historienne Michèle Sapori, les historiographes du 19e siècle l'ont rebaptisée Rose, parce que ça leur paraissait plus glamour. Pourtant, aucun acte de créance, aucun livre de conte dont on a encore la trace aujourd'hui ne la nomme comme ça. Son vrai nom, c'est donc Marie-Jeanne Bertin. Mais on va faire comme tout le monde depuis 200 ans, on va l'appeler Rose Bertin. Voilà, maintenant, on peut reprendre le fil de notre récit. J'étais en train de vous présenter sa famille, justement. Le père de Rose est un simple archer de la maréchaussée royale. La petite fille grandit dans une famille nombreuse et modeste, sans être pauvre. Mais la mort de son père quand elle a 6 ans précipite la famille dans la précarité. Le destin de Rose semble tout tracé. Depuis l'intervention de Colbert, le ministre de Louis XIV, la région a développé son activité autour de la confection de tissus et de la couture. Rose pourrait être simple couturière, mais une bonne étoile veille sur elle. Vers l'âge de 9 ans, elle est confiée à l'une de ses tantes, Mademoiselle Barbier, qui est marchande de mode. À l'époque, les marchandes de mode ne font pas les robes en tant que telles. Elles fabriquent et posent tous les enjolivements, comme on dit à l'époque. Ça correspond à tous les bijoux, les rubans, les fourrures, les dentelles qu'on peut ajouter à un vêtement, et tous les accessoires, manchons, pelisses, bonnets, ornements pour cheveux, pour souliers. Bref, c'est un peu l'ancêtre du grand magasin. On n'a pas de détails sur la vie de Rose à cette époque, mais elle apprend à coudre, à broder et à faire des looks, ou des silhouettes comme on dirait aujourd'hui. Et elle commence sûrement à mettre son petit nez d'adolescente dans les livres de contes parce que tout ça, eh ben, ça reste du business. En 1766, à 19 ans, Rose monte dans une voiture, celle qui tous les mercredis, à 5h du matin, assure la liaison entre Abbeville et Paris. À elle, la capitale et les rêves de gloire. À cette époque, Paris compte 800 000 habitants et attire déjà les ambitieux de tout poil. « À nous deux, Paris !» pense-t-elle sans doute, comme bien des provinciaux depuis des siècles qui sont montés à Paris. Rose loge probablement chez des connaissances de sa tante du côté du quai de Gèvres, sur la rive droite, en face de l'île de la Cité. Elle occupe un emploi de couturière chez la marchande de mode, Mademoiselle Pagel, dont la célèbre boutique, le Très Galant, fournit l'aristocratie de la capitale. Pour la petite histoire, les couturières précaires sont le premier vivier de la prostitution à Paris. Mais Rose est à la fois trop peu jolie et trop ambitieuse pour tomber dans le piège d'un proxénète ou d'un libertin qui lui ferait de fausses promesses. La jeune Picarde est une travailleuse acharnée et douée. Elle devient vite le bras droit de Mademoiselle Pagel qui lui confie les commandes de prestige comme la robe de mariée en fil d'argent de la future duchesse de Chartres qui, par son mariage, deviendra sous peu une princesse du sang, c'est-à-dire l'élite de l'aristocratie. La robe de la jeune duchesse est à tomber. Elle aurait suscité le même engouement que la robe de mariée de Kate Middleton. Et la duchesse de Chartres adore promouvoir les jeunes artistes pleines de talent. C'est elle qui lance la carrière d'Élisabeth Vigée-Lebrun, qui deviendra la portraitiste favorite de Marie-Antoinette. Elle va faire pareil avec Rose Bertin. Bientôt, les amis de la duchesse débarquent au Très Galant. Elles demandent toutes à avoir affaire à Rose. Et finalement, en 1773, à 26 ans, Rose Bertin ouvre sa propre boutique, au Grand Mogol, dans la rue Saint-Honoré, où elle emploie une trentaine d'ouvriers. Le quartier situé près du Palais Royal et de la Comédie-Française n'est pas très différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'est là qu'on trouve au XVIIIe siècle tous les marchands de l'artisanat du luxe. En appelant sa boutique « Au Grand Mogol », Rose fait un clin d'œil au plus grand magasin de soieries du règne de Louis XV qui s'appelait « Au Grand Turc ». Comme ça, Rose convoque tout un imaginaire autour des fastes de l'Orient qui évoque tout de suite pour ses contemporains une débauche de luxe digne des plus grands souverains. Parce que la jeune marchande n'a pas l'intention d'habiller le petit peuple, elle. Ce qu'elle vise, ce sont les sommets, et sa protectrice va l'aider à les atteindre. En 1773, au moment où Rose ouvre sa boutique, Marie-Antoinette est dauphine de France. Élevée dans le cocon de Chaunebrune, elle a un mal fou à se plier à l'étiquette de la cour de Versailles. Sa dame d'atour, Madame de Villars, était autrefois au service de la reine Marie Leszinska, feu l'épouse de Louis XV. Inutile de dire que la mode, ce n'est pas son problème. Elle est là pour habiller la dauphine selon son rang en suivant un protocole rigide et public. Marie-Antoinette a 18 ans et déteste porter le corps à baleine, un corset très contraignant avec une pièce en triangle rigide sur le ventre. C'est désagréable à porter, mais le résultat est spectaculaire. La poitrine est remontée, le dos est bien droit, le ventre est aplati. Et par-dessus cette armure, on pose sur la taille un panier, une armature rigide, qui va donner un grand volume sur les hanches. Par-dessus encore, on passe la robe à la française avec son buste rigide, sa jupe ouverte sur le devant, sur des jupons ouvragés, et un dos plissé qui donne une allure folle, mais une allure démodée aux yeux de la petite dauphine qui tente d'échapper à tout ça. Marie-Antoinette n'a pas encore le sens des responsabilités d'une future reine de France. Elle néglige son apparence. Elle grossit à force de grignoter, elle ne soigne pas son hygiène bucco-dentaire et s'habille n'importe comment. Sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche, passe son temps à lui faire des reproches dans ses lettres. Une future reine de France doit être à la hauteur de ce qu'elle représente. Le pendant féminin de son époux, un corps sacré en représentation permanente. En 1774, lorsque Louis XV meurt, Marie-Antoinette devient reine. Elle a 19 ans et sent qu'elle est trop jeune pour assumer une fonction aussi importante. Mais ses scrupules ne durent pas longtemps, d'autant plus que son mari lui laisse carte blanche pour réchauffer l'ambiance d'une vieille cour versaillaise compassée. Lors d'une villégiature à Marly, la jeune duchesse de Chartres lui présente Rose Bertin. Entre la reine et la marchande de mode, c'est le coup de foudre. Marie-Antoinette va pouvoir prendre ses distances avec les vieux fournisseurs d'habits de cour imposés par Madame de Villars et créer son propre style. En fait, c'est une sorte de pacte qui se noue entre Marie-Antoinette et Rose Bertin. Ensemble, elles vont inventer la mode. Et c'est pas une formule que je vous livre ici. Comme le souligne la conservatrice Hélène Delalex dans son interview que vous trouverez sur le site du château de Versailles, le rôle de la reine de France est d'être une gardienne de la tradition. D'ordinaire, ce sont les favorites qui créent les modes et leur marge de manœuvre se limite à un accessoire ou à la profondeur de leur décolleté. La reine n'a pas pour mission d'être une icône de la mode copiée par les autres. mais avec Rose. C'est ce que Marie-Antoinette va devenir. La reine rêve d'être admirée pour sa beauté et son style, et de son côté, Rose veut trouver son mannequin vedette. La marchande de mode va même dupliquer les styles qu'elle invente avec Marie-Antoinette pour que des femmes riches puissent acheter les mêmes accessoires que la reine dans sa boutique et s'habiller comme elle. C'est inédit. On n'avait jamais vu ça avant en France. D'ailleurs, Rose Bertin se sert de l'image de la reine pour vendre ses créations. Elle la fait même apparaître sur des gravures avec des accessoires qu'elle n'a jamais portés. Mais ça plaît. Marie-Antoinette est la femme la plus représentée de France et la plus imitée. Aujourd'hui, on la verrait comme une influenceuse. Et bientôt, toutes les femmes des cours européennes veulent la copier pour le plus grand bonheur de Rose Bertin, qui voit son carnet de commandes s'allonger à n'en plus finir. Des étrangères font le déplacement dans sa boutique, comme Milady Mountstuart venue d'Angleterre. Et la pauvre Lady tombe dans les pommes après être restée 3 heures debout pour essayer 1001 accessoires. Et il n'y a pas que les aristocrates qui y vont au Grand Mogol. Mademoiselle Bertin habille aussi les actrices de la Comédie-Française et les cantatrices de l'opéra, à une époque où ce métier n'est pas tout à fait distinct de la prostitution. Au XVIIIe siècle, une clientèle aussi hétéroclite, c'est inattendu, alors qu'aujourd'hui, avoir Meghan Markle, Beyoncé ou la reine Camilla qui irait dans les mêmes boutiques de luxe du Faubourg Saint-Honoré n'aurait rien d'étonnant. Comme Rose a le sens des affaires, elle gonfle aussi ses prix. Elle ne se limite pas à facturer la main-d'œuvre et les matières premières. Elle facture aussi ses idées, son goût de la création, son génie, sa griffe. Bref, se payer du Rose Bertin, ça coûte un œil, mais c'est le dernier chic. Vous comprenez maintenant pourquoi on la considère comme la mère de la haute couture ? Chanel, Dior, Lanvin, Saint-Laurent et tous les autres, ce sont les enfants de Rose Bertin, des créateurs géniaux au service de l'élite avec une politique tarifaire délirante qui vous donne l'impression d'appartenir à un club très fermé de privilégiés. C'est ça le luxe. Marie-Antoinette est une excellente cliente. Pour pouvoir payer Rose Bertin, elle obtient de son époux le doublement de sa cassette personnelle, qu'on appelle sa chatouille. Et c'est vrai que son portefeuille la démange. Je vais vous raconter dans le second épisode comment Rose s'y prend pour susciter le désir de ses clientes. Mais dans ce monde frivole de froufrou et de rubans, est-ce qu'on peut entendre les premiers échos de la Révolution ? À bientôt.